Une Bible, donc, l'ouvrage le plus précieux qui puisse exister au monde, alors peut-être pas à cette édition-là, mais par ce qu'elle contient. Vous savez que la Bible, c'est le livre le plus traduit au monde, c'est le livre le plus diffusé au monde. C'est un livre qui, depuis 2000 ans pour les chrétiens, depuis encore plus longtemps pour le judaïsme, est lu et relu et médité et vécu, génération après génération, jour après jour, on pourrait dire. Chaque croyant et chaque communauté réunie est invitée à l'avoir en son cœur. C'est vraiment un trésor. Ça justifie bien le papier doré et les rubans roses, hein, parce qu'il faut le mettre en valeur, ce livre si important, qui contient un tel trésor pour nos vies. Et puis en même temps, vous le savez sans doute d'expérience, c'est un livre qui n'est pas toujours facile à lire. Il est gros, il est dense, il y a des choses dedans que nous pouvons comprendre aisément. Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut arriver à les vivre facilement. Il y a des choses qu'on peut difficilement comprendre. Il y a même parfois des choses qui nous choquent, qui nous perturbent. Voilà, c'est un beau cadeau et en même temps, c'est un cadeau un peu compliqué à recevoir parfois. Alors voilà, j'ai ouvert ce paquet. On reçoit cette Bible en cadeau pour nous rappeler qu'elle est au centre de notre vie. Mais comment faire pour la comprendre vraiment, y recevoir vraiment ce qui est dedans ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous aider ? Alors je me dis que si on nous fait le cadeau d'une Bible, c'est qu'on ne sait pas juste pour nous dire « Tiens, débrouille-toi avec !» Il y a peut-être des éléments qui nous sont donnés pour nous aider. Alors je vais aller voir dans le paquet s'il y a d'autres choses en fait. Oh, je trouve une lettre, une enveloppe. Et cette lettre, de quoi peut-elle parler ? Oh, un cœur ! C'est une lettre d'amour. Ouais, c'est très important pour nous rappeler que cette Bible, qui est un livre énorme, il y a peut-être plus de 2000 pages, il y a 66 livres différents, ça traverse des siècles entiers d'écriture et de récits, etc. Eh bien, c'est comme une lettre qui nous est envoyée, une lettre d'amour que l'on reçoit. Et vous savez que quand on reçoit une lettre d'amour, en général, eh ben, on est un peu ému. Et puis on se dit, voilà, on a son petit cœur qui palpite. Et puis on se dit, ben voilà, ce qui est dit dedans, c'est des mots, mais c'est bien au-delà des mots, c'est quelque chose qui est dit d'une relation, d'une présence, d'une attente, d'une espérance, enfin, de toutes ces choses qui sont bien au-delà de ce qui peut être écrit. Ben c'est ça la Bible. C'est une lettre d'amour de Dieu pour nous. C'est comme si Dieu, quand il nous donnait la Bible, nous disait, voilà, c'est pour que tu comprennes dedans ce qui est l'essentiel, c'est que je te dis que je t'aime, et que tu es précieux pour moi, et que tu es unique pour moi, et que tu comptes tellement à mes yeux que je suis prêt à tout donner pour toi. Je te tiens au creux de ma main, dit-il.
Excusez-moi. Ça, c'est pas prévu. Ça, c'est pas prévu.
C'était pas prévu ça, hein, donc on efface ça. Voilà, une lettre d'amour. Et finalement, la Bible, c'est ça fondamentalement et essentiellement. La parole de Dieu qui, à travers tous ses récits, toutes ses histoires, tous ses textes, tous ses préceptes, enfin tout ce qui est contenu dedans, est là pour nous dire cette présence de Dieu pour nous. C'est une histoire d'alliance, toute l'Écriture. Une histoire d'alliance entre Dieu et les hommes. Et l'alliance, ça veut dire le lien. Ça veut dire justement cette relation qui appelle à un échange, à vivre ensemble. Une relation pas toujours facile, les relations d'amour sont parfois compliquées, et toute la Bible nous montre que si de la part de Dieu il y a un amour infini pour nous, de la part de nous, c'est parfois difficile, et c'est parfois cas un cas, mais il y a toujours ce Dieu qui revient, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui appelle au-delà, ce Dieu qui sans arrêt nous dit « voilà, je t'aime », et tu peux l'entendre à travers ces pages. Oui, la Bible, c'est une lettre d'amour qui est faite pour nous. Et c'est un premier élément si important pour comprendre que c'est un trésor. Ce n'est pas juste un document archéologique ou culturel, ça l'est en partie, mais bien plus fondamentalement, c'est l'amour de Dieu qui nous est dit, et en particulier en Jésus-Christ, ce Dieu qui se donne totalement pour nous ouvrir un chemin de vie et que nous puissions à notre tour aimer. Mais voilà, vous dites peut-être, c'est bien beau ce qu'il dit, d'ailleurs, c'est assez évident d'ailleurs, enfin c'est évident, c'est peut-être pas évident quand on ouvre la Bible, mais quand même que Dieu nous aime, on le dit depuis 2000 ans, pas toujours facile à vivre. Mais voilà, quand on ouvre la Bible, ça saute pas aux yeux de manière évidente que c'est une lettre d'amour. On peut tomber sur des récits trop difficiles à comprendre. Il y a des récits qui peuvent nous choquer. Il y a des récits qui sont d'une autre culture, d'un autre temps. Alors comment on fait avec ça? Parce qu'il ne s'agit pas de faire dire n'importe quoi à la Bible. Il s'agit de la prendre telle qu'elle est. Il s'agit de la respecter. Il s'agit de lui faire honneur. Il s'agit d'exercer notre intelligence pour que, dans ce que nous lisons, nous puissions comprendre ce qui est écrit. Et ça veut dire nécessairement comprendre en partie le contexte de l'écriture, la culture dans laquelle ça a été écrit, produit, l'histoire dans laquelle ça s'inscrit, les hommes et les femmes qui l'ont mise par écrit et ce qu'ils vivaient de Dieu. Lire la Bible, c'est pas simplement de l'émotion comme quand on reçoit une lettre d'amour, c'est aussi l'appel à notre intelligence, à notre culture. Et c'est pour ça qu'il est si important, quand nous lisons la Bible, de l'étudier en groupe, de partage biblique, d'études bibliques, pendant le culte, en réflexion, enfin voilà. De se dire, pour comprendre vraiment la saveur de ce qui est écrit, il faut que je puisse comprendre ce que ça voulait dire dans le temps où c'était écrit. C'est très important que nous utilisions notre cerveau pour lire la Bible, notre intelligence. C'est un défi, parce qu'on est dans un monde qui ne laisse pas souvent beaucoup de place à la pensée. Et il faut parfois lutter pour penser et pas être juste dans l'émotion. C'est un défi que de lire la Bible en pensant, et il y a un autre défi en même temps, c'est de la lire pour y entendre cette parole de Dieu qui est une parole d'amour. Alors qu'est-ce qui peut nous aider en faisant exercer notre lecture active, humaine, notre être entier, qu'est-ce qui peut nous aider à entendre la parole de Dieu résonner pour nous? Alors je vais aller voir là-dedans s'il y a autre chose. Il y a autre chose. C'est dur à sortir. Un ventilateur. Un ventilateur. Vous savez qu'un ventilateur, comme son nom l'indique, ça sert à faire du vent, à faire du courant d'air, à donner du souffle. Et c'est très important, parce qu'on en a besoin pour, non pas seulement s'aérer, mais l'air, on en a besoin pour respirer, tout simplement. C'est une des dimensions les plus vitales de la vie. Et vous savez peut-être que dans la Bible, que ce soit dans l'hébreu de l'Ancien Testament ou dans le grec du Nouveau Testament, il y a un seul mot pour dire ce que nous, en français, nous disons en plusieurs mots. C'est le même mot qui dit le vent, qui dit l'air, qui dit le souffle, qui dit aussi l'esprit. Quand dans la Bible il est question de l'Esprit Saint, c'est le même mot qui dit le vent, le souffle, l'air, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est le souffle de Dieu qui vient nous traverser, qui vient nous aider à respirer, qui nous fait vivre. Alors pour lire l'Écriture, on a besoin bien sûr de notre intelligence et de notre culture, mais on a besoin aussi de cette disponibilité au souffle de Dieu, qui vient, comme il a inspiré ceux qui ont mis par écrit, nous inspirer nous, pour pouvoir entendre sa parole. En théologie réformée, protestante, réformée, classique, on parle de la double inspiration du Saint-Esprit. Cet esprit qui a inspiré l'auteur et qui nous inspire nous en tant que lecteur. Notre intelligence ne suffit pas pour entendre la parole de Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui, en nous, nous dit que c'est la parole de Dieu. Jean Calvin disait, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vient souffler en nous et qui nous fait comprendre que ce texte, malgré tout l'écart qu'il y a de culture, est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prie souvent avant de lire la Bible. En tout cas dans le culte, comme on l'a fait tout à l'heure, mais aussi dans les groupes d'études bibliques, mais aussi, et c'est tout à fait recommandé, dans notre piété personnelle, quand vous ouvrez la Bible, pas forcément des longs mots ou des longues phrases, mais tout simplement la mise en disponibilité pour dire, Seigneur, qu'à travers ce que je lise, je puisse y entendre quelque chose de toi, pour moi. C'est à la fois l'intelligence et le cœur, c'est à la fois le travail intellectuel et la disponibilité à l'esprit, c'est à la fois l'étude et la prière, c'est tout ça à la fois que Dieu nous donne. Alors bien sûr, le Saint-Esprit n'est pas un ventilateur, hein, c'est qu'une image, mais ça nous dit bien qu'on a besoin de ce souffle de Dieu. On en a besoin parce que...
Je le pose parce que c'est un peu lourd.
On en a besoin parce que vraiment cet écart culturel qu'il y a entre le texte biblique et nous, il est parfois complexe, il est parfois fatigant. Et souvent on peut se dire, mais alors les hommes et les femmes de la Bible, ils vivaient quand même dans un tel univers différent de nous que c'est pas évident de se dire que c'est pour nous. Pourtant, si on y réfléchit, c'était des hommes et des femmes comme nous. Est-ce que l'humanité profondément était différente il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, même si les repères culturels étaient tout, ou scientifiques ou de représentation du monde étaient différents, c'était les mêmes personnes, les mêmes émotions que nous. Alors comment pouvoir comprendre cela? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Je vais voir là-dedans encore une fois. Vous avez vu le titre, c'est 4 objets, donc vous savez forcément qu'il y en a encore 2. Oh, je trouve un miroir. Je trouve un miroir. Et ça nous dit quelque chose de ce qu'est l'Écriture pour nous. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement de regarder ailleurs, plus loin, d'autres que nous, mais c'est aussi se retrouver soi-même. Puisqu'un miroir, par définition, vous voyez là. Vous êtes beau. Hein, c'est une manière de se dire, voilà ce que Dieu voit en fait. Hein. Et lui, il trouve ça très beau. Hein. C'est une manière de dire, voilà, la Bible, c'est un peu comme un miroir par rapport à nous. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons nous retrouver dans ce que nous trouvons dans l'Écriture. Et si on regarde bien les histoires bibliques, c'est très réaliste en fait. C'est la pleine humanité. Ce n'est pas des récits édifiants, loin de l'existence. C'est des hommes et des femmes pleins de difficultés, pleins de turpitudes parfois. C'est par exemple Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui croit. C'est le modèle des croyants, mais c'est quelqu'un qui doute sans arrêt. On trouve par exemple Jonas par exemple, à qui Dieu dit « tu vas aller à Ninive » et qui s'empresse de prendre la direction opposée pour échapper à la mission que Dieu lui donne. Et puis, quand enfin Dieu le rattrape et l'envoie quand même à Ninive, il ne va pas être content parce qu'il va porter la parole de Dieu et puis cette parole ne lui convient pas en fait parce qu'elle est trop... c'est trop la grâce pour les autres, quoi. Alors il n'est pas content, quoi, Jonas. Il est comme nous en fait. Hein. Ça ne lui convient pas quand... c'est pas ses propres opinions. Et puis, Joseph et ses frères, par exemple, ils n'arrêtent pas de se disputer, en fait, hein, tout au long de leur existence. C'est comme nous, hein, avec nos frères et sœurs de sang, ou nos frères et sœurs spirituels en Église, ou en humanité. Voilà, on pourrait citer quasiment tous les personnages bibliques. C'est comme un miroir qui nous est tendu pour dire, voilà, c'est toi, c'est de toi dont il est question. C'est de toi, mais pas pour simplement te complaire dans ton image et rester figé dans ton image, bien sûr. Mais pour que tu puisses voir que Dieu te regarde autrement que ce que toi tu te vois. Que Dieu regarde au-delà de ce que tu es et qu'il trouve, il t'ouvre des espaces d'avenir, d'espérance au-delà de toi-même. Voilà un miroir qui nous rappelle que l'Écriture, c'est notre existence qui est dedans. Et c'est pour ça que c'est si important de la lire. Et voilà, le problème, c'est que le miroir... vous le savez comme moi, on peut aussi rester fasciné par le miroir. On peut rester prisonnier de sa propre image. On peut dans notre vie s'isoler, être seul et facilement finir par être perdu finalement dans quelque chose de froid. Voilà. Le miroir ne suffit pas parce qu'il y a d'autres que nous. Le miroir c'est un peu solitaire parfois. Il y a d'autres que nous, alors j'ai vu qu'il y avait encore autre chose. Une prise multiple. Une prise multiple. Parce que dans multiple, ben, il y a les autres forcément. Il n'y a pas tout seul. Une prise multiple, c'est bien l'illustration de ce que la Bible est pour nous, c'est-à-dire on peut se brancher, et puis le courant peut passer, l'énergie de Dieu peut venir jusqu'à nous, elle peut nous traverser. Mais voilà, nous ne sommes pas les seuls, il y en a d'autres qui sont branchés sur le même courant. Et heureusement, nous ne sommes pas tout seuls avec nos doutes ou notre foi, il y en a d'autres autour. C'est ce qu'on appelle l'Église en fait. L'Église c'est tout simplement les autres qui sont branchés sur le même courant que nous, qui lisent l'Évangile comme nous traversent des moments de grande foi et des moments de grand doute, des moments de compréhension et des moments d'incertitude, mais pas toujours en même temps. Et c'est ça qui permet de s'entraider les uns les autres. Et lire la Bible ensemble... c'est plus fort que la lire tout seul, parce que justement, on s'entraide les uns les autres. Oui, lire la Bible, c'est comme une prise multiple, c'est recevoir l'énergie qui vient de Dieu, c'est la partager avec d'autres, ces autres qui sont donc nos frères et sœurs en Église, mais c'est aussi les autres qui sont nos frères et sœurs en humanité, sur notre palier, au travail, dans la famille. C'est pas toujours des gens aimables, c'est des fois très compliqué, c'est aussi les gens qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, c'est une prise multiple parce que d'autres peuvent venir se brancher sur nous. Nous sommes en fait comme des conducteurs qui recevons, mais pas pour garder, mais pour partager et transmettre. Nous sommes des témoins, en quelque sorte. Lire la Bible, c'est être branché sur le Christ avec d'autres pour pouvoir en être témoin. Voilà quatre objets, il n'y en a pas plus, hein, parce que sinon ça fait beaucoup, mais qui nous rappellent quatre éléments essentiels et que je retrouve dans la lettre à Timothée que Raphaël vient de nous lire tout à l'heure. Premier objet que je vous ai montré, cette lettre d'amour, et j'entends résonner ce que Paul disait à Timothée, les saintes écritures peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu t'aime, c'est ça le salut. J'ai ensuite trouvé le ventilateur qui nous rappelle cet Esprit Saint que Dieu nous donne. Et comme Paul le dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et donnée par son Esprit. Puis le miroir qui nous rappelle que c'est de nous dont il s'agit dans l'écriture. Et là j'entends résonner quand Paul dit à Timothée que l'écriture est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, former à une juste manière de vivre, c'est-à-dire ta vie qui s'y retrouve. Et puis la prise multiple qui nous rappelle les autres avec lesquels nous partageons et pour lesquels nous témoignons, qui me rappelle cette phrase de Paul à Timothée, tout cela, l'écriture qui est offerte pour que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne, c'est-à-dire pour être en pleine relation avec les autres. Voilà une lettre d'amour, un ventilateur, un miroir, une prise multiple, ce ne sont que de pauvres objets, hein, mais c'est simplement pour nous dire l'essentiel. C'est un trésor qui est dans cette Bible qui nous est donnée. Alors pour finir, je voudrais citer deux personnes. La première personne, c'est un chrétien qui vivait à Lyon au IIe siècle. C'est Saint Irénée, au IIe siècle de notre ère, donc il y a fort longtemps. Saint Augustin disait « La Bible, c'est comme la main tendue de Dieu vers nous. Et c'est une main que Dieu nous tend pour nous relever. C'est une main pour nous tirer vers le haut. Dieu, dans l'Écriture, est là pour venir nous chercher et pour que nous grandissions avec lui. Lire la Bible, c'est être libéré, c'est être grandi. » Et puis deuxième référence, et je termine par là. Si Dieu vient nous chercher pour nous relever, c'est qu'il vient nous chercher où nous sommes, c'est-à-dire bien bas. Et là, je voudrais vous citer quelques phrases d'un auteur du 21e siècle, un écrivain français que vous connaissez, Christian Bobin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le très bas ». Et voici ce qu'il dit dans ce livre. « La Bible est un livre qui est fait de beaucoup de livres, et dans chacun d'eux, beaucoup de phrases, et dans chacune de ces phrases, beaucoup d'étoiles, d'oliviers et de fontaines, de petits ânes et de figuiers, de champs de blé et de poissons, et le vent. Partout le vent, le mauve du vent du soir, le rose de la brise matinale, le noir des grandes tempêtes. Les livres d'aujourd'hui sont en papier. Les livres d'hier étaient en peau. La Bible est le seul livre d'air, un déluge d'encre et de vent. Un livre impossible à tenir entre deux mains calmes pour une lecture sage et lointaine. » Fin de citation. C'est un livre de vie. Alors, bonne lecture. Amen. Thank you.